This is CKCU Literary News.
Happy New Year to all our listeners worldwide. Je vous souhaite une bonne, heureuse année. Alles Gute, liebe Hörerinnen und Hörer, im neuen Jahr.
Voici les actualités littéraires dans le monde francophone. Au microphone, Hans-George Ruprecht.
Aujourd'hui, nous avons deux invités. J'accueille d'abord, avec grand plaisir, Lucie Renaud, journaliste québécoise dont la spécialisation professionnelle comprend la musique classique, la littérature contemporaine et le théâtre. Puis, comme nous sommes associés, elle et moi, au plan multimédia, je suis ravi de pouvoir saluer en même temps la rédactrice en chef du webzine La Recrue du Mois. Bonjour, Lucie Renaud.
Bonjour Hans, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui.
Voilà. Et mon deuxième invité, c'est Marius Tremblay. Et je me sens honoré de pouvoir l'accueillir au studio. Bonjour Marius Tremblay.
Bonjour Monsieur Hans.
Avec votre beau prénom d'origine latine et vu tout ce que vous avez déjà accompli dans le domaine des arts, c'est-à-dire en tant que compositeur et pédagogue de musique, mettant en scène, auteur de comédies musicales et d'opéras, vu ce que nous connaissons de Marius Tremblay, poète, auteur de contes et de deux romans, puis j'ajouterai avec une vraie impatience de savoir ce que vous nous préparez ces jours-ci. Oui, vu tout ce que Marius Tremblay a déjà accompli, je dirais, c'est l'homme de la Renaissance du 21e siècle.
Je vous remercie de ce compliment, mais disons que, comme je le mentionnais dans le titre de mon dernier CD, La saison inachevée, eh bien, elle n'est toujours pas achevée et j'ai bien d'autres projets à réaliser, entre autres que mon opéra, La Diva, La Star et Le Politique soient montés de mon vivant, si je puis dire, et aussi, bien entendu, la rédaction de d'autres romans, tels une suite à l'ombre de la colline. Et j'ai en tête d'autres projets qui encore touchent le monde de la musique, le monde des apparences, le monde de la réalité et le monde de la politique.
Mais voilà, ce n'est pas tout. En 2005, vous avez complété vos recherches au niveau doctoral à l'Université du Québec à Montréal sur les pratiques des arts contemporains. Et il faut dire aussi que vous êtes un homme d'action, engagé dans le combat pour l'indépendance du Québec, votre pays. À vrai dire, natif de la région du Saguenay, de la belle région du Saguenay, vous avez milité pour le Parti québécois dès le début de cette formation politique si importante et vous étiez candidat pour le Bloc québécois aux élections fédérales de 2008. Mais, comme beaucoup d'artistes et intellectuels de votre génération, vous êtes maintes fois dit solidaire de la communauté de vues et de valeurs socioculturelles dont l'action démocratique se situe à gauche.
Absolument, je suis social-démocrate. Je suis définitivement une personne de gauche. Pour moi, le monde des idées, le monde du possible réalisable doit être ce qui doit guider les décisions politiques et non pas un monde axé sur une performance économique qui, dans le fond, représente absolument rien. Qu'un pays ait un PIB énorme et que sa population crève de faim, c'est pas, pour moi, en tout cas, il y a une dichotomie qui devrait pas exister. Et ça fait partie, je crois, de l'être humain que nous sommes. Alors, j'ai la chance d'être un artiste, mais le fait d'être un artiste ne m'empêche pas d'être un humain qui réagit du mieux qu'on puisse le faire. Et je crois que si on ne s'implique pas personnellement en politique, la politique va s'occuper de nous et va faire de nous ce qu'elle veut bien en faire.
Est-ce que vous considérez que c'est un rôle essentiel de l'artiste d'être impliqué en politique, ou est-ce que c'est un choix qui revient à chacun, ou est-ce que les artistes devraient s'impliquer plus?
Bon, les artistes, d'après moi, ne devraient pas s'impliquer plus, mais tous les citoyens devraient s'impliquer plus. Disons que quand je me présentais en politique, on me demandait, ben, t'es un artiste, qu'est-ce que tu fais dans ce monde-là qui était... Et pourtant, le monde politique ou le monde musical, il y a autant de politique dans le monde musical, vous devez en savoir quelque chose. Il faut que les citoyens, qu'ils soient boulangers, professionnels, avocats, économistes, s'impliquent dans la vie publique. Et c'est la seule façon où la démocratie pourra vraiment s'exercer.
Absolument. Alors, je pense que malheureusement, cela fait partie de notre société, d'un certain laisser-aller. On n'ose pas poser certains gestes. Est-ce qu'il y a une possibilité, selon vous, de pouvoir reculer là-dessus et de changer la donne?
Je ne dirais pas reculer, ma chère madame, mais je dirais avancer. Il faut absolument que l'on sorte des stéréotypes où on sait... D'ailleurs, on a vu au Québec, avec le printemps érable, que, justement, la jeunesse n'était pas du tout comme on pensait qu'elle était. On croyait qu'ils étaient tous hyper individualistes, capitalistes... Et pourtant, on a vu une jeunesse qui a fait plaisir à mon vieux cœur de 66 ans, de voir ces jeunes qui, conscients, capables de s'exprimer, d'avoir une perception du monde qui est complètement différente des clichés qu'on nous présente de la jeunesse.
Comment ne pas demander à Lucie Renaud de nous décrire l'œuvre musicale de Marius Tremblay? Parce que c'est imposant, c'est une œuvre d'envergure. Comme je viens de le dire, ça comprend des symphonies, des opéras, des rondos. Marius, vous me le dites.
Alors oui, effectivement, il y a des symphonies, il y a des sonates pour divers instruments, il y a de la musique électronique, il y a un ballet électronique. J'ai créé en 1975 le ballet La Légende du Lac des Fées. C'était un ballet construit selon la structure de la danse traditionnelle en trois actes avec des scènes et des tableaux, mais la musique était complètement électroacoustique et ou de la musique concrète. Et ça a eu une assez belle écoute.
Alors, justement, quand on fréquente votre musique, on est, j'aurais presque envie de dire que vous êtes un homme de la Renaissance, même à l'intérieur même de vos chants lexique ou enfin vos langages musicaux d'une certaine façon. Alors, vous avez, comme vous le mentionnez, adopté la musique concrète, vous avez travaillé un peu dans le syriel. Vous avez aussi un style qu'on pourrait peut-être qualifier de néo-romantique, néo-classiciste jusqu'à un certain point. De toute façon, je déteste poser des étiquettes sur des genres. Mais est-ce que ce n'est pas en fait en écho avec votre propre démarche d'artiste multifacette, auteur, compositeur, politicien, peintre et tout ça, que dans le fond, vous ne pouvez pas vous limiter à un seul type de musique?
Effectivement, je suis venu à la composition musicale par passion. Et bien entendu, j'ai été bercé, moi, par les biographies des grands romantiques, Beethoven, par Maninoff, Mahler et ainsi de suite. Et ça a été vraiment un choc lorsque je suis parti du conservatoire de Chicoutimi pour atterrir au conservatoire de Montréal dans la classe de Gilles Tremblay où toute cette musique-là, là, ça n'existait plus. Et on me présentait, entre autres, la symphonie numéro 8 de Webern, 3 pages et demie, imprimée serrée. Et je me disais, ben coudonc, moi, quand je pense symphonie, mais je pense grosse partition avec beaucoup de musique, avec toutes ces choses-là. J'ai appris avec Gilles Tremblay et avec mes autres collègues, mais on n'a jamais réussi à enlever le cheval impétueux qui courait en moi. Et après un silence de presque 10 ans de composition, quand je me suis mis à réécrire, j'ai fait Conte et berceuse pour l'artiste disparu, une musique électroacoustique, une musique concrète, avec aussi de la musique réelle que je jouais, que j'interprétais moi-même, soit à la clarinette, soit à la flûte, soit au percussion. Et finalement, bien, ça donnait un résultat qui, à ma grande surprise, ressemblait à ce que les jeunes compositeurs d'aujourd'hui font. Alors, je me suis dit, bien, je devais être pas si en dehors du champ que j'essayais de faire de la musique que qui correspond à la définition de ce qu'on a de la musique, c'est-à-dire quelque chose de beau, d'agréable à écouter. Et je ne partage pas du tout les paroles de M. Boulez qui dit « Si on a du plaisir à écouter de la musique, c'est qu'on frise la débilité mentale. » Donc, je peux vous dire que je suis très débile mental parce que j'aime la musique. Et encore cet après-midi, en m'en venant sur l'autoroute, j'écoutais Don Giovanni et j'étais bouleversé, j'étais ému, j'étais pris par l'action. Et pourtant, j'étais dans ma voiture à la pluie. Mais c'est cet aspect-là qui, pour moi, est très important. Et je pense que on est sorti d'un certain académisme au niveau de la composition de la musique contemporaine, puis que finalement, ben, il va finir par y avoir des belles œuvres qui vont fleurir à droite et à gauche.
Alors, si on regarde votre catalogue d'œuvres, en fait, on remarque que plusieurs de ces œuvres, contrairement à ce qu'on pourrait croire du compositeur contemporain, n'ont pas connu une diffusion confidentielle. Si on regarde, par exemple, votre symphonie numéro 2, dite la symphonie du royaume, elle a été créée ici même, dans la région d'Ottawa, par l'orchestre du conservatoire de Hull en 1998.
Toutes mes œuvres ont été jouées, créées, enregistrées, diffusées. Certaines ont pris beaucoup de temps. Si je pense au disque La saison inachevée, les 5 mélodies de jeunesse, ça a pris 40 ans avant que je les entende bien chanter. Mais la plupart des autres œuvres, la création a été assez rapide. À Radio-Canada, j'ai eu droit à 2 concerts au Musée des Beaux-Arts, la messe pour une joie, un concert de musique de chambre. J'ai le conte pour ténor, narrateur et quintette avant. Fleur Lune, la reine des Bernaches, a été présentée lors de l'ouverture du Salon du livre de l'Outaouais. Mes sonates ont été interprétées par des grands musiciens d'ici, entre autres le pianiste Jean Desmarais. Et quand j'étais dans l'Ouest canadien, bien entendu, il y a eu mon grand spectacle Parisian Follies, qui était une création assez amusante. C'est que j'ai repris 5 opéras d'Offenbach et j'en ai fait un nouveau, tout en respectant le texte et la musique. Alors, ce qui était amusant dans cette production-là, c'est que le premier acte était complètement en anglais et ça tournait autour de la péricole. Le deuxième acte, les chants étaient en français, le dialogue était en anglais. Et au troisième acte, où j'utilisais la vie parisienne et gaieté parisienne, tout était en français et il n'y a personne qui s'en est aperçu. À la fin, les gens étaient heureux d'avoir assisté à un spectacle comme celui-ci. Et j'ai écrit beaucoup quand j'étais dans l'Ouest. Et actuellement, bien, il y a la seule œuvre qui n'est pas encore jouée, bien, c'est mon opéra, La Diva, la Star et la Politique. Mais des extraits ont été enregistrés et sont disponibles sur CD.
Vous avez complété un doctorat, Hans l'a mentionné tout à l'heure, sur les études et les pratiques des arts. Vous êtes interrogé sur l'avenir de l'opéra. Est-ce qu'on se pose beaucoup cette question-là, en fait? Comment doit-on redéfinir l'opéra? A-t-on besoin de le redéfinir? Quelles ont été les conclusions de vos recherches?
Mon doctorat, c'était dans le département du doctorat en études et pratiques des arts. Donc, c'est un doctorat fait pour permettre aux artistes en fonction, les artistes, de réfléchir sur leur création. Et moi, j'ai fait ma thèse sur la légitimité de l'opéra au 21e siècle. Et j'ai rencontré beaucoup d'embûches. Premièrement, c'est que, au point de vue des gens du milieu de l'opéra, mon questionnement n'était pas très apprécié parce que je risquais de mettre en cause l'existence même de leur forme d'art. Et par rapport aux gens qui sont de nouvelles vagues, eux comprenaient pas pourquoi je perdais mon temps à réfléchir sur l'avenir de l'opéra quand c'est quelque chose qui devrait être d'ordre muséal et ainsi de suite. J'ai terminé ma scolarité, j'ai présenté 2 thèses, une qui portait sur la sociologie, sur la réflexion, à savoir les liens qu'il y a entre la politique, le financement de l'opéra et la culture comme telle. J'avais beaucoup de travail à faire et à la boutade, j'ai dit à mon directeur de thèse, ça serait bien plus simple que je compose un opéra sur le sujet. Et il a pris la balle au bon, il a dit d'accord, et en 6 mois, j'avais écrit le livret et composé la musique de l'opéra La Diva, la Star et la Politique, qui justement, vous avez La Diva qui est du monde où l'art a des canons, où l'art était, et la culture est un moyen de briller dans la société. La star, elle, c'est la fille de la diva, vient du milieu où c'est la popularité. Alors, t'as beau avoir le plus grand talent du monde, si tu n'es pas populaire, ça ne compte pas. Et cette jeune fille-là a une enfant qui est le personnage clé, qui doit décider comment va évoluer la culture au 21e siècle. Alors, le politique, bien, c'est toute la sphère politique. L'opéra se déroule quand le grand-père est décédé. Donc, t'as les tenants de la grande culture qui sont là pour lui rendre hommage, et t'as toute la masse populaire qui est au salon funéraire pour voir la star. Parce qu'ils veulent voir leur Céline Dion. Mm-hmm. Et finalement, bien, qu'est-ce qui va arriver de tout cela? Bien, faudrait bien entendre l'opéra pour le savoir.
Merci, Lucie Renaud, pour vos remarques tout à fait pertinentes au sujet de l'art musical de Marius Tremblay. Et j'aimerais bien qu'on passe maintenant à cette question délicate et intéressante, à savoir quel est le rapport pour vous entre créativité musicale et créativité littéraire. J'aimerais bien signaler à nos auditeurs un poème qui s'intitule « L'envol », qui se termine ainsi. Et Marius Tremblay, je vous prie de le lire pour nous. C'est la fin du poème.
La lumière de l'extase dans le lointain m'attire, et je vole à perdre haleine, à perdre le souffle, vers cette magique musique où, dans un dernier orgasme, je pourrais redonner le temps précieux de ma vie perdue.
Merci. Alors, ça se prête à des questions, à des remarques. D'abord, évidemment, le problème du temps. Platon disait, la musique est l'essence du temps. Mais je suis curieux quand même de savoir pourquoi vous vous situez dans votre conception de la créativité et de votre vie même, dans une perspective qui va au-delà du présent. Vous dites justement à la fin que cet envol est vers cette magique musique. Qu'est-ce que c'est cette magique musique pour vous, Marius Tremblay?
Je dois, avant de répondre à votre question, mentionner que ce poème a été écrit quelques mois avant mon retour à la composition musicale. J'avais fait un silence volontaire. Bien entendu, à ce moment-là, la politique prenait beaucoup de mon temps, mais le silence musical était volontaire parce que, justement, cette magique musique ou cette musique magique qui aurait dû me transporter, qui aurait dû me donner des ailes immenses, ne répondait pas à cette attente. Donc, j'avais, quand j'écris ce poème, la nostalgie, justement, de faire des choses au niveau de la création qui me permettraient de m'envoler. Et c'était justement le soi de retrouver cette magique musique et d'en jouir un point tel que je retrouverais le temps précieux de ma vie perdue. Parce que lorsque la création comme telle est vraiment un moment de cristallisation, un moment de pouvoir, un moment d'extase, et on a l'impression, lorsqu'on est sorti de ce moment d'extase, qu'on n'existe pour rien.
Écoutons donc, tiré de l'album La saison inachevée de Marius Tremblay, Une fille douce, chantée par René Lapointe, mezzo-soprano, accompagnée au piano par René Lamarre. Thank you. Avant même de parler de votre roman, à l'ombre de la colline, j'aimerais bien vous entendre parler au sujet de votre écriture romanesque. Il me semble, enfin, je suis persuadé que vous êtes, même dans le quotidien, très à l'écoute de la langue parlée. C'est une langue qui vous parle, que vous parlez, et votre roman, nous avons ultérieurement le plaisir de vous entendre lire un chapitre clé de ce roman, s'écrit comme une partition. Vous êtes très attentif au rythme, au discours tel qu'il se manifeste par la voix des individus, et moi je trouve que c'est une polyphonie de voix humaine.
Il y a bien entendu dans ma recherche au niveau de l'écriture tout mon bagage que j'ai acquis au niveau de l'écriture musicale. Et quand, par exemple, j'écrivais le livret de mon opéra, eh bien, j'entendais la musique pendant que j'écrivais le livret, je savais que... Et c'est très important pour moi d'avoir ces moments de tension et de détente dans le discours, ces moments où il y a un rythme qui s'accélère pour vraiment nous faire non pas décrire ce qui se produit, mais faire ressentir au lecteur ce qui se passe. Tout à l'heure, je disais à ma copine dans la voiture, là, c'est pas important qu'on comprenne pas les mots que la chanteuse chante, mais la musique est tellement évidente qu'on se doute qu'est-ce qui se passe dans l'opéra. Alors, dans mon roman, j'ai fait le choix de prendre le langage populaire. Certains critiques me l'ont reproché, mais c'est le langage de la vie. Mais toute la construction autour, vous avez raison, c'est très opératique et ça se termine dans un anticlimax digne de Wagner. Là, c'est vraiment il y a beaucoup de musique dans ma façon d'écrire et elle sort de mes pores d'une façon naturelle.
Ce qui m'a fasciné, c'est l'emploi du langage d'ici, d'une région frontalière entre le Québec majoritairement francophone et l'Ontario, bien sûr, majoritairement anglophone. Il me semble qu'il y a une particularité québécoise d'employer l'anglais dans les discours en français. Votre roman est plein, on ne pourra pas appeler ça d'anglicisme, non, ce sont des mots populaires du parler d'ici, l'anglais employé à l'endroit juste, là où le mot anglais, pour les gens d'ici, veut dire quelque chose qui ne dit pas nécessairement en Ontario. Et ça, je trouve, c'est de l'art. Vous êtes, en tant qu'écrivain, très sensible à la justesse du mot qui tombe. Mais c'est là, c'est le mot anglais qui doit tomber. On pourra peut-être citer un passage pour expliquer un tout petit peu comment ça fonctionne dans votre écriture.
J'aimerais mentionner à nos auditeurs que j'ai bien pris soin dans mon roman de mettre en italique tous les néologismes et les anglicismes et les termes en anglais qui sont utilisés afin de justement de montrer la recherche qui a été faite. Ce ne sont pas des mots qui ont été mis là parce que je ne savais pas le mot français. C'est parce qu'il fallait que ce soit ces mots-là. Alors, nous avons notre sénateur Beaulac qui s'en va voir son épouse, qui a décidé de divorcer. Et bien sûr que Monsieur le sénateur, ça ne fait pas son affaire. Alors, Elizabeth Remington attend calmement son mari et lui dit « Listen, Jerry,
we never had fights, so let's stay calm. Ça fait un bon bout de temps que tu me considères plus comme ton épouse. That we live separate lives. En partant, je ne te prive pas de ma présence. I was not been there for a long time. So you are free and rich. » Elizabeth prend sur le bureau un coupe-papier à manches d'ivoire et le fait glisser comme un peigne dans ses cheveux. Elle pointe maintenant la lame vers Jerry et poursuit son monologue. « Je continue en français parce que je veux que tu comprennes bien. J'ai fait évaluer ce que tu as investi dans l'entreprise, tes biens, et j'ai aussi fait calculer for ton travail que tu faisais pour le business. Roughly, et en étant generous, $750,000. » Elle lui montre un chèque et continue. « Tu recevras par Roméo the papers for la maison de Rockleafe. Je te la donne, je n'ai pas envie de retourner à Ottawa. Elle te sera très utile. » Elle ouvre un dossier et poursuit. « Les lawyers de la compagnie ont préparé les forms de retrait. Tu n'as qu'à signer et tout sera réglé. » Jérémy se lève d'un trait et répond avec rage. « Si tu penses que je vais signer ça, esti, tu es tombé sur la tête. C'est moi qui ai modernisé cette entreprise et c'est moi qui l'ai rendue profitable. Donc, elle m'appartient autant qu'à toi. 750 000 piastres, ça vaut tout près de 100 millions. » Il se reprend. « Pardon, 50 millions. Puis c'est quoi cette folie de divorce après presque 30 ans de mariage, esti? Pourquoi ça te prend tout à coup? » « Oui, ça m'a pris tout à coup. Like an illumination. » En le narguant, elle ajoute, « Elizabeth Remington s'est rendue compte qu'elle était quelqu'un et she wants to live. Quant à l'héritage de mon père, it is clear that j'ai hérité de tout. Tu as bien travaillé, that's true, et c'est pour ça que je te donne la maison d'Ottawa et ce montant d'argent. Tu n'es pas perdant du tout, not at all. »
Alors, parlons-en. L'ombre de la colline, paru aux éditions Mots en toile à Montréal, en 2011. C'est un roman policier, mais je dirais c'est un roman qui nous fait réfléchir sur ce qui se passe dans la vie politique de n'importe quel pays, mais particulièrement ici à Ottawa. Plus que j'y pense, c'est un roman qui joue sur le rapport entre l'être et le paraître. Autrement dit, entre la vérité et le secret. C'est un roman qui met en scène un sénateur qui s'appelle Jérémy Beaulac, son conseiller juridique, maître Roméo Simard, ensuite la famille Cyr, Roland et Rita Cyr, la famille Côté, et puis la fille de la famille Roland-Cyr, et tout un groupe de personnalités qui vivent dans la région ici, qui fréquentent des bars, qui ont des emplois, etc. Et pour bien comprendre ce roman, sans vouloir révéler sa fin, je dirais, comme dans bien des romans policiers, au centre, il y a un fait divers. Une jeune fille a disparu, et au bout de quelques jours, on la trouve dans le cimetière de Notre-Dame à Hull, dans le coma. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, qui est cette fille?
Nathalie Cyr, la fille de Rita et de Roland Cyr, est une adolescente révoltée. Révoltée de la façon dont sa mère se conduit, elle qui est devenue l'alter ego du sénateur Beaulac, qui est aussi révoltée du fait que son père semble accepter cet état de fait sans réagir. Alors, elle voit en son père un nounours inoffensif et en sa mère une parfaite hypocrite qui vit une vie parallèle qui n'a rien à voir avec la vertu. Alors, cette jeune fille décide de faire exploser le noyau familial parce que ce qui se produit, c'est que même si elle prend sa mère en flagrant délit de se faire embrasser, caresser par le sénateur, même si elle dénonce ce fait, Rita a toujours le pouvoir de regarder son mari et de lui dire en pleurant « Mon chéri, tu ne crois pas ce que notre fille dit, là. Tu sais à quel point elle est menteuse, et ainsi de suite. » Donc, la jeune fille prend le chemin de l'extrême, c'est-à-dire elle décide d'aller travailler comme danseuse nue dans un bar minable, et finalement, comme danseuse nue, elle est utilisée comme escorte pour une certaine fête, et comme à cet endroit, elle y reconnaît le fameux sénateur Beaulac, pour la faire taire, bien, on utilise des moyens assez drastiques. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve sans papier d'identité, qu'elle se retrouve au cimetière Notre-Dame, parce qu'on voulait l'abandonner éventuellement quelque part autour du lac Limay. Mais ce soir-là, au lac Limay, il faisait beau et tous les espaces vacants étaient occupés par des amoureux ou des gens qui avaient bien des choses à faire autre que d'héberger une personne dans le coma. Donc, on l'a abandonné au cimetière. Et ce point-là, c'est que tout dépend du monde des apparences. Le père est convaincu que le sénateur Beaulac est impliqué dans cette disparition. La mère, pour elle, c'est absolument impossible parce que le sénateur Beaulac, c'est un être extraordinaire, généreux, qui ferait jamais des choses comme cela. Et arrive finalement une policière qui, par souci de professionnalisme, explore les interrogations du père de la jeune fille et finit par monter un dossier où tout est évident, mais où il est impossible de procéder de quelque manière que ce soit.
Ce que je trouve très amusant en tant que lecteur vivant ici, dans ce roman, il y a des villages comme Papineau, d'autres, hein, qui sont constamment évoqué, et il y a même une certaine couleur locale, le fameux restaurant Henri Bergère, hein, le Fou du Roi, hein, cette boîte de nuit, la question de Buckingham, hein, et bon, alors, ça se passe à quelle époque?
Le roman se passe en 1980, et la ville de Gatineau ou l'arrondissement Gatineau est vraiment le personnage essentiel de ce roman-là. Ce roman-là n'aurait pas pu se passer à Montréal, peut-être à Québec, mais il fallait un endroit, et cet endroit-là, c'est ça qui est la beauté de cette région-là. Les gens qui vivent à Gatineau, si on prend une image du passé, ce sont les gens qui travaillent à la cour, tandis que ceux qui habitent à Ottawa, ce sont des vrais courtisans. Donc, tout ce monde des apparences pour Rita Cyr d'être l'adjointe, la conjointe, la concubine du sénateur Beaulac, c'est vraiment un titre de noblesse. Et dans ce milieu, bien justement, on ne fréquente que ses semblables. Alors, ça crée une mentalité très, très, très particulière, surtout dans les années 80, où le régime libéral était là depuis des années et devait durer encore des siècles et des siècles. Amen. Mais c'était vraiment une classe sociale qui était bien particulière. Et l'ombre de la colline, c'est ça. C'est que finalement, tout ce qui se passe sur la colline finit par avoir un effet, un impact sur la mentalité des gens qui habitent dans la région de Gatineau et sur, justement, le cours des événements.
Je vous ai présenté comme un homme d'action, engagé dans le combat politique, mais vous étiez aussi conseiller parlementaire. Donc, vous avez vu ce qui se passe à l'intérieur du Parlement fédéral. Et je me demande ce que vous avez senti en tant que fonctionnaire ou membre de cette communauté énorme, n'est-ce pas, qui détient le pouvoir au Canada. Quand vous avez senti un peu, soit la pression, les on-dit, les préjugés, l'importance des alliances, etc. Parce que, à la fin de votre roman, votre Rita, disons-le, la maîtresse du sénateur, employée par le gouvernement canadien, dit à la toute fin qu'elle ressent de nouveau peser sur elle le poids de la colline. Pourquoi est-ce que cette institution qu'on appelle la colline, c'est-à-dire la colline où se trouvent les institutions du gouvernement fédéral, présente un poids? Comment vous, en tant qu'écrivain, vous avez tiré avantage de cette connaissance des faits?
Avant d'être écrivain, j'ai effectivement travaillé en politique. J'ai été l'adjoint du chef du Nouveau Parti démocratique, M. Ed Broadbent. Par la suite, j'ai milité au Bloc québécois, j'ai été candidat, j'ai travaillé comme adjoint parlementaire de plusieurs députés, mais surtout, dans les années 80, je fréquentais de ces merveilleuses adjointes parlementaires libérales, et il y a dans ce que je raconte beaucoup de souvenirs, beaucoup d'événements qui m'ont été racontés et vécu par ces personnes-là. Parce que ça se passe quelques années avant que moi, j'étais comme tel en poste. C'est que la colline parlementaire comme telle est un lieu physique, réel, et lorsque vous y travaillez et que vous recevez de la visite de l'extérieur, vous êtes très fier de montrer la tour de la paix et de dire « Voici la cinquième fenêtre en haut, là, c'est mon bureau ». Donc, ça donne un prestige. Vous savez, de vivre à Versailles, c'est plus intéressant que de vivre dans un hôtel particulier sur le boulevard Rivoli à Paris. Donc, il y a cet effet-là. Il y a le fait de côtoyer le pouvoir et d'avoir l'impression d'être dans le secret des dieux. Ceci crée un dynamisme, une interdépendance entre le témoin de ce qui se passe et les véritables acteurs. Parce que, aussitôt qu'une réunion est finie ou qu'on assiste à une conversation, il y a toujours quelqu'un qui va dire, bien ça, là, tu gardes ça pour toi, là. Et ça donne, le silence donne un pouvoir, de pouvoir dire, ah ben moi, ah ça, je peux pas vous en parler, mais il va se passer quelque chose. Donc, c'est toute cette dynamique-là qui fait que ces gens-là vivent dans une bulle, et lorsqu'elles sortent de leur bulle, la bulle les suit. Ils ne peuvent pas être assis à la table de cuisine et si le mari demande à Rita, ben, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah, je ne peux pas t'en parler. Parce que je ne peux pas t'en parler. C'est vu de l'intérieur, c'est ce qui se produit. Donc, t'as une sensation de faire partie du pouvoir sans pour autant avoir aucun pouvoir sur le déroulement des choses.
Est-ce justement cette tension entre l'être et le paraître que le scandaleux s'installe?
Effectivement. Vous avez ici deux mondes qui s'affrontent. Celui d'un père qui est à la fois fou de joie et rempli d'anxiété à l'idée d'aller à l'hôpital et de retrouver sa fille, et celle d'une mère pour qui ce geste pourrait être un scandale. Elle ne se voit pas, elle ne peut pas s'imaginer causer un tel tort à son patron. Elle s'imagine que lorsqu'elle va sortir de l'hôpital, que tous les journalistes vont courir après elle, qu'ils vont la harceler, et à ce moment-là, c'est la goutte qui fait déborder le vase et où Roland finit par éclater et lui dire qu'elle est pareille comme son patron, puis qu'elle peut bien continuer à s'amuser avec lui, là, que là, lui, là, il a atteint sa limite et il se réfugie chez son ami Gilles Côté. Mais c'est vraiment à partir de là que les deux mondes s'affrontent, où Rita va se camper dans son rôle de défendre les apparences et son mari de ne pas comprendre comment un être humain puisse laisser de côté son enfant et juste pour protéger l'apparence d'honnêteté de son patron.
Je pense que Lucie Renaud est d'accord avec moi que c'est un roman qu'on peut vivement recommander aux lecteurs parce que c'est un roman d'actualité, n'est-ce pas?
Tout à fait. Et je pense qu'on attend avec impatience la suite, savoir qu'est-ce qui va se passer et d'encore plus mystérieux dans les coulisses du pouvoir.
Absolument.
Marius Tremblay, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation au studio de CKCO Lutheran News. Et je souhaite une bonne continuation de vos œuvres, en particulier d'œuvres d'écriture.
Je vous remercie, Monsieur Ruprecht.
Alors, au revoir et à la prochaine.
De CKCU FM 93,1, la radio de Carleton University à Ottawa, Canada. C'était « Les actualités littéraires dans le monde francophone », une émission de CKCU Literary News, diffusée en continu et en différé, telle qu'indiqué sous CKCU Literary News dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter sous CKCU Lit News, en un seul mot. Merci et au plaisir de vous lire.